Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec
Thiriette.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Sans surprise, Poutine a été réélu pour un mandat de 6 ans, le 4e, à la tête de la Russie. Face à une opposition quasiment inexistante, le concurrent le plus sérieux ayant été empêché de se présenter à l'élection, la partie était jouée d'avance. La seule inconnue résidait dans le taux de participation, qui est légèrement en baisse, avec les habituels soupçons de fraude. On voit par là quand même que le pays est resté rassuré par le militarisme du président et tout à fait endurant, ou faut-il dire indifférent, peut-être même résigné, à la misère et à la corruption. Un temps, avant l'élection, il est difficile de parler de campagne, un temps fort donc avant cette élection, fut le rassemblement de soutien à la candidature de Poutine-Vladimir, qui a eu lieu dans le stade Loujniki, sous le slogan, ma foi, très explicite, « Pour une Russie forte ». Vous l'avez certainement noté, la thématique de la force a été abondamment exploitée par Poutine au cours de ces derniers mois. Là où, en Occident, il n'est question que de soft power, pour la Russie, et surtout son président, seul compte la puissance militaire servie par des armements ultramodernes. Il y a là une évolution sensible. Il y a 6 ans, le discours du candidat Poutine était un discours politique clivant relativement traditionnel. Aujourd'hui, son propos s'est considérablement rigidifié, avec une rhétorique quasi martiale. Le scrutin qui vient d'avoir lieu visait, c'est évident, non pas à élire un manager politique, mais bien un chef de guerre. Et pour s'en persuader, il n'était que de voir la féerie de missiles et de lasers déployés sur écran géant durant ce fameux meeting du 1er mars. Comme l'a écrit un journaliste russe de l'hebdomadaire Profil, et je le cite, « La partie militaire du message urbi et orbi du patron du Kremlin s'apparente à une révision totale des règles du jeu dans le domaine de l'équilibre des forces militaires et politiques ». Fin de citation. Le journal expert de Moscou cite, et manifestement avec grand plaisir, le courrier d'un de ses lecteurs qui dit ceci, « Un nouveau missile balistique thermonucléaire, voilà ce dont nous aurions dû nous doter depuis longtemps, cela nous aurait épargné toutes ces sanctions ». Voilà l'Occident prévenu, à commencer par les Américains, à qui Poutine pose implicitement un défi stratégique. C'est un dirigeant qui souhaite attirer l'attention que Poutine et venger l'humiliation essuyée par son pays après la chute de l'Union soviétique. Le président réélu fait valoir que la Russie a été ignorée, voire même méprisée à l'époque où elle était en position de faiblesse, ce qui n'est pas faux, et qu'elle est prise aujourd'hui au sérieux uniquement parce que le pays est menaçant. Poutine proclame sans s'en cacher sa volonté de restaurer la splendeur perdue depuis son premier mandat présidentiel en 2000. Il n'est d'ailleurs que de voir sa politique étrangère, les soupçons d'empoisonnement d'agents doubles en Europe et surtout ses multiples interventions militaires ou ses tentatives de déstabilisation des pays limitrophes pour s'en convaincre aisément. Le Donbass, le soutien aux séparatistes ukrainiens, l'annexion de la Crimée, les survols fréquents des espaces aériens et finlandais et suédois par des chasseurs russes, soutien aux séparatistes des provinces géorgiennes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud et à ceux de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Et puis bien sûr une politique russe du Moyen-Orient très militaire avec le soutien aux régimes du boucher de Damas mais aussi le maintien de la sécurité et la protection des intérêts économiques de la région avec des projets énergétiques, des projets dans l'industrie nucléaire et des coopérations militaro-techniques, notamment avec l'Égypte, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Comme on le voit, que des gens bien, amoureux de la démocratie et des droits de l'homme. Ainsi va le monde. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Esprit Occitanie un homme qui a fait le choix, d'une part, de travailler dans le milieu associatif, d'autre part, de s'investir dans la dépendance et le troisième, voire le quatrième âge. Une émission qui, compte tenu de la déshérence de ce monde de la dépendance, est tout à fait fondamentale. Bonjour Thiriette.
Bonjour.
Alors Thiriette, vous êtes le directeur de l'ASA.
Oui.
Alors l'ASA, ça veut dire...
Alors c'est un acronyme, Alliance Sage Adage. C'est l'alliance de deux associations qui ont fusionné en 2009, Sage et Adage.
Voilà. Une grosse maison ?
Oui, 400, à peu près 400 personnes.
Oui, déjà, c'est une taille significative que beaucoup de PME de la région n'ont pas. Alors, à quoi sert AZA ? Quel est son but, sa philosophie ?
C'est une association à but non lucratif qui sert le milieu médico-social. Deux activités principales, l'aide et l'accompagnement à domicile, donc des personnes que nous envoyons au domicile de bénéficiaires pour assurer les besoins de la vie courante, le ménage, etc.
On reviendra sur les différentes questions.
Et l'autre partie, effectivement, les soins infirmiers à domicile.
Donc ça permet finalement à des gens, je disais troisième et quatrième âge, je me trompe en disant ça ?
Non, vous ne vous trompez pas, c'est des personnes en perte d'autonomie, alors troisième, quatrième âge, mais hélas, on a beaucoup de très jeunes enfants. On s'occupe aussi d'enfants autistes, on commence à s'en occuper un peu plus aujourd'hui, et parfois des jeunes handicapés. Donc là, c'est un boulot très, très compliqué, très difficile, mais une valeur sociale importante.
Vous êtes implanté où ?
Alors, on est implanté à Toulouse. En fait, le siège social est à Toulouse, mais on est implanté sur à la fois l'urbain de Toulouse, le périurbain qui est représenté par Blagnac, Tournefeuille et L'Union, et le rural avec tout le Lauragais.
C'est une création récente, c'est ancien.
C'est ancien. Ça date, la première association date de 1992 et elle a cru avec les besoins de sociétaux. Et effectivement, elle a connu un véritable virage en 2009, justement à l'occasion de cette fusion des deux associations assez importantes, l'une étant sur Blagnac, l'autre étant sur Toulouse.
Qui c'est qui a eu l'idée de créer ça ? Il faut toujours penser au fondateur.
Alors le fondateur, il est très 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 loin, pas forcément, mais c'est un ensemble de personnes, c'est toujours une association, c'est pas forcément, il y a un président effectivement, il y a un conseil d'administration, mais c'est une équipe d'abord, avant tout une équipe, et la croissance et le développement de cette association s'est vraiment fait à partir de ce virage de 2009, et puis surtout sous l'instigation d'un président, alors peut-être là effectivement on va pouvoir le nommer, il s'appelle Joël Echeverria, qui est devenu président en 2004. Alors, il a eu besoin, enfin, l'anecdote c'est qu'il a eu besoin effectivement à l'époque, il est sorti de l'hospitalisation, il cherchait une association, il a appelé AZA, qui l'a aidé effectivement à retrouver l'usage de son appartement et de son bras, et donc il a des valeurs humanistes déjà en origine, donc il s'est beaucoup investi dans cette association et il y a cru effectivement à ce message, et pour qu'aujourd'hui effectivement AZA représente un peu plus de 400 personnes.
Oui, 400 personnes, c'est tout à fait considérable. Alors les services que vous rendez, vous avez commencé à les développer, ils sont quand même extrêmement variés, on peut peut-être en donner quelques exemples.
Comme je disais à l'instant, effectivement on a le service d'aide accompagnement à domicile, c'est effectivement, on va il y a à peu près 250 salariés qui interviennent systématiquement au domicile. Donc leur travail, c'est au domicile des personnes âgées, plus ou moins, des handicapés, des jeunes, plus ou moins, pour les aider effectivement dans leur vie quotidienne.
Par exemple, accompagnement au bras.
Au bras, ça veut dire vous allez sortir la personne pour la faire marcher, pour l'accompagner à faire ses courses. Donc ça, c'est des besoins de la vie quotidienne, ce qu'on appelle la vie quotidienne, de marcher, d'aller se restaurer, de préparer à manger, de faire la toilette et de s'occuper du domicile de ces personnes.
Voilà. Ça veut dire que vous pouvez assurer toutes les tâches d'intendance au niveau du domicile ?
Oui.
Mais après, vous allez aller plus loin, vous allez tomber dans le médicalisé.
Alors après, effectivement, l'autre partie d'AZA, c'est les soins infirmiers à domicile. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire entre des infirmières et des aides-soignantes, donc des gens formés à soins médicaux, qui vont accompagner sur prescription médicale, bien sûr, les personnes donc chez elles, donc en perte d'autonomie, sur des problématiques plus de soins, soins à la personne, enfin des pansements, etc. Donc là, on est vraiment dans de l'accompagnement soins infirmiers.
Ça veut dire que ça peut être aussi des gens qui relèvent d'une opération,
oui, tout à
et
fait.
Qui n'ont pas forcément ni trois ni quatrième âge.
On en parlait effectivement, ça peut sortir effectivement d'une hospitalisation, des personnes qui ont besoin de soins juste à l'issue de cette opération, on intervient dans ce cadre-là aussi, également.
Et vous faites des nursing aussi, ce genre de choses.
Oui.
Donc du lourd.
Du lourd. Et quand on parle de lourd, on est aussi spécialisé sur les soins palliatifs. Donc là, effectivement, on est dans des cas très compliqués. Moralement, c'est difficile accepté, donc de la part des aidants déjà, de la famille. Et puis, bon, nos équipes sont formées, mais effectivement, c'est un boulot très, très, très dur.
Soins palliatifs, ça veut dire que vous allez aussi administrer un certain nombre de drogues qui permettent une moindre souffrance.
Sous la prescription, effectivement, des médecins, mais effectivement, on accompagne ces patients vers leur fin de vie.
Oui, bien sûr. Ces services que vous rendez, ils sont complexes à gérer au quotidien pour le directeur. Vous êtes 400 personnes, c'est une énorme structure.
Oui, la complexité, c'est le planning. Enfin, nous sommes dévoués à des bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est l'appellation commune qu'on prend pour ces patients. On est dévoués à ces bénéficiaires, donc il faut qu'il y ait un contrat qui nous lie avec ces personnes. Il faut que les plannings soient constamment revus, que les salariés qu'on leur affecte soient bien disponibles en temps et en heure. Donc c'est vraiment un boulot de tous les jours et c'est tous les matins revoir des plannings sans arrêt.
Il peut y avoir des coups de stress, si je puis dire, le jour où il y a un salarié qui vous appelle, je ne peux pas y aller.
Absolument,
vous avez quelqu'un d'extrêmement dépendant. Comment vous faites? Vous avez
toujours des solutions d'ajustement, effectivement, mais c'est toujours dans une période de stress assez importante parce que c'est du stress sur 5-10 minutes. Il faut trouver des solutions très, très rapidement. Et, alors, c'est le matin, mais c'est souvent les week-ends également parce qu'on intervient tous les jours, donc de 7h à 22h. Mais tous les jours. Donc ça veut dire que même s'il y a un week-end...
Oui, puisque la dépendance ne s'arrête pas le week-end.
Elle ne s'arrête pas le week-end, hélas.
Eh bien, nous avons des assistants en studio, et notamment Majid Salah, que nos auditeurs connaissent bien et qui souhaitent intervenir. Majid, à vous.
Merci. Nous savons que vous faites un métier très difficile, et pour le personnel, c'est extrêmement dur tous les jours d'assumer des gens qui souffrent, qui relèvent même parfois de la misère. Ça génère forcément chez vous un turnover important parce que les gens craquent au bout d'un moment. Est-ce que vous avez une politique de recrutement satisfaisante pour pouvoir remplacer justement ces personnes qui partent, ou vous faites un appel au secours, aux bonnes volontés?
Alors, bien sûr, on a une politique de recrutement qui est basée effectivement sur de nombreux canaux. Toujours est-il effectivement que... Je suis d'accord, il y a un turnover important parce que ce n'est pas forcément un métier qui est reconnu. On a un problème de reconnaissance et de notoriété de ce métier, au-delà de l'aspect financier. Hein. Toujours est-il qu'effectivement, nos équipes sont formées de façon à ce qu'elles accompagnent les personnes qui sont recrutées sur le terrain suffisamment longtemps pour qu'elles prennent bien en charge ce nouveau métier. Les canaux, par contre, de recrutement se tarissent très rapidement parce que ce n'est pas un métier qui est porteur, malgré effectivement l'appel des politiques gouvernementales pour qu'on trouve... Il y a besoin de 200 000 personnes, globalement, sur l'aide à domicile. Aujourd'hui, il y a 200 000 postes qui pourraient être pourvus, mais on ne les pourvoit pas difficilement. Donc, politique de recrutement... On essaie de mener le mieux que possible en étant le plus attractif possible, en étant sur la notoriété, sur le service social qu'on peut apporter. Voilà ce qu'on peut apporter effectivement dans ces éléments de...
Vous formez vos salariés ou vous les prenez déjà formés?
Alors, il y a plusieurs catégories de salariés. Effectivement, sur la partie des soins, ces salariés sont formés, mais il y a toujours une formation qui est programmée tous les ans. Par contre, sur la partie aide à domicile, on a une partie des salariés qui ont une formation acquise, et puis les aides à domicile qui ont peut-être une formation un peu plus basique. Par contre, on les accompagne régulièrement au long de l'année, avec un plan de formation très développé sur les gestes et postures, sur la façon de gérer la partie nutritionnelle, donc des personnes qu'on va accompagner. Voilà.
Le public du 3e ou 4e âge, ce n'est pas des publics faciles. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour travailler chez AZA?
Il faut être à l'écoute, il faut être bienveillant.
Il faut de l'empathie.
Et d'empathie, il faut de la bienveillance et de l'empathie. Et il faut comprendre qu'effectivement, on est en face de personnes qui sont en perte d'autonomie, donc qui se raccrochent effectivement à un moindre geste, à une moindre parole. Parfois, la personne qu'on envoie, c'est la seule personne qu'ils vont voir de la semaine. Donc effectivement, peut-être ça peut s'accrocher. Mais en général, on a des rapports qui sont plutôt amicaux, voire même plutôt de belles courtoisies avec des belles histoires. On a toujours des personnes un petit peu compliquées, certes, mais c'est là que la bienveillance et la courtoisie doivent fonctionner. C'est ce qui nous anime, en fait.
Il n'y a pas une formation de base pour gérer la maison, parce que c'est un peu de ça qu'il va s'agir pour un certain nombre. Il y a une formation malgré tout.
De base, oui. Tout à fait, parce que je veux dire, en fait, on est répartis sur...
C'est plus une formation de vis-à-vis de la personne plutôt que du travail, parce qu'aller faire des lessives ou des ménages, j'imagine que
ça... Il y a les deux,
ça.
Parce qu'en fait, effectivement, chaque domicile est particulier et singulier, et chaque personne qu'on a accompagnée est singulière. Donc, à la fois, dans l'accompagnement de ces salariés, les responsables qui s'occupent des antennes, on a 4 grosses antennes qui s'occupent de ces bénéficiaires, accompagnent les salariés sur le domicile, leur présentent effectivement la personne qui va être accompagnée, qui va être aidée, et leur présentent également l'ensemble de la mission, en fait, qui va leur être dévoyée, en fait. Donc à chaque fois, effectivement, même si c'est du balayage ou du repassage, on leur explique effectivement les tâches qu'ils doivent accomplir en fonction des besoins que le bénéficiaire aura émis.
Et ça se passe toujours bien ou il y a des moments de tension?
Des moments de tension, oui, c'est indéniable. Mais globalement, effectivement, alors, on fait régulièrement des études de qualité, de satisfaction. Alors, on a à peu près entre 1100 et 1200 bénéficiaires. On interroge une fois par an ces bénéficiaires. On a, sur 1200 bénéficiaires, on a un taux de réponse de 80%. Et sur ces 80%, ce qui est pas mal. Parce qu'en fait, on sollicite également les familles. On sollicite également les familles parce que parfois, effectivement, les bénéficiaires ne sont pas autonomes dans leur parole. Donc, on sollicite les familles qui sont très présentes en tant qu'aidants. Et sur ces 80% de réponses, je vais dire qu'on n'a pas un chiffre soviétique. On n'est pas très loin des 95% quoi, de satisfaction. Mais bon, effectivement.
Ça plairait à M. Poutine que j'avais fait tout à l'heure.
C'est pour ça que je faisais un peu une petite parenthèse, mais effectivement, alors pourquoi 95%? Parce qu'en fait, ils nous attendent en fait. C'est un passage. La plupart des personnes qu'on suit, pour elles, c'est toutes les semaines, voire c'est tous les jours parfois. Pour certaines personnes qui sont dans une très grande
ou plusieurs fois par jour, si nursing il y a ou des choses comme ça,
voire même des journées entières où on est présent, effectivement, en relais avec des relais de plusieurs équipes, mais effectivement. Pour ces personnes, effectivement, c'est un bien-être qu'on leur apporte. Et elles nous en félicitent souvent, justement, au travers de ces campagnes d'enquête de satisfaction.
Les personnes âgées ayant horreur du changement, il y en a certaines qui disent « Ah oui, mais moi, je veux personne chez moi. » Puis ça ne va jamais être les mêmes.
C'est toujours, oui, mais bien sûr, ça, c'est...
Comment vous répondez à ça?
Alors, ces personnes âgées, effectivement, on essaie de les stabiliser dans le visuel, en ayant toujours à peu près les mêmes salariés. Mais effectivement, un salarié, il a besoin de vacances. Il est peut-être absent pour des vacances, pour de la maladie, etc. Donc, on les accompagne parce que nos responsables de secteur qui animent ces sites leur présentent effectivement des salariés de remplacement, mais ils les accompagnent régulièrement. Voilà, donc pour dire, voilà, c'est temporaire, mais tout est dans la discussion, tout est dans le discours.
Jean-Pierre Roch est dans le public nombreux, puisqu'ils sont deux quand même, on va tout dire. Donc, une question de Jean-Pierre Roch. Vous écoutons. Parlez bien en face du micro. Hein. Voilà.
Une question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous arrivez à gérer le temps chez les différents patients ou clients, entre guillemets. Je prends un exemple, par exemple, pour faire du repassage. Tant de chemises, tant de draps à repasser. Comment vous arrivez à le gérer, sachant que, d'après les échos que l'on a, ou à travers les connaissances que nous vivons régulièrement, les gens qui sont malades, âgés ou en fin de vie, s'accrochent à la personne qui leur rend visite. Donc, c'est un petit peu... ça doit être difficile à gérer.
Oui, parce que si la personne ne répond pas, il doit y avoir une relation, donc nécessairement, j'imagine que le temps est plus long, c'est peut-être ce que vous voulez dire, Jean-Pierre, que le temps est plus long qu'il ne le serait intrinsèquement, parce qu'on sait combien on va mettre pour repasser 10 chemises, mais comment on va repasser 10 chemises et parler, peut-être expliquer, ou rendre un ou deux services en même temps, c'est un peu compliqué.
Alors, comme je vous le disais, effectivement, chaque personne est singulière, et chaque mission est également singulière. Donc, effectivement, le dosage se fait au domicile de cette personne, avec le responsable du site, qui va apprécier, effectivement, en fonction d'un plan qui nous est dédié par le conseil départemental, parce que avant tout, c'est le conseil départemental qui est notre tutelle financière, qui va nous dire, voilà, pour cette personne, vous aurez à faire 12 heures par mois d'intervention. Bien, en fonction de ces heures qui sont dédiées à cette personne, le responsable du site va doser la mission, s'il y a du repassage, du ménage, va doser la mission en fonction des besoins qui sont identifiés, parce qu'il y a également... un dosage qui se fait avec le conseil départemental, avec des infirmières, des médecins au domicile. Donc on peut doser effectivement la mission, pas plus ou moins d'intervention sur le domicile ou plus ou moins d'intervention sur la personne.
Vous gérez uniquement de l'humain ?
On gère que de l'humain.
Ou vos salariés, ou vos clients, entre guillemets.
Ouais, complètement.
C'est un métier où il faut être humaniste ou alors il faut être gestionnaire et on s'en tient là ?
Aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer d'être gestionnaire parce qu'une association, c'est d'abord une entreprise. On peut la qualifier d'entreprise associative, mais c'est d'abord une entreprise. Aujourd'hui, nous, on fait 10 millions pas de chiffre d'affaires, mais de subventions qu'on reçoit des tutelles.
Ah oui, ça fait 20 millions de chiffres.
Voilà, c'est énorme. Donc, avec 400 personnes, on emmène du monde avec soi. Donc, il faut qu'on soit gestionnaire. Mais sans oublier, effectivement, notre mission principale, c'est l'associatif. Et l'associatif, c'est le volet social, c'est se tourner vers l'autre.
Vous avez des concurrents sur Toulouse, la région ?
Oui, oui, il y a des associations qui sont de taille identique. Hein. Il y en a 3 ou 4 sur Toulouse. Après, effectivement, on tombe, après, avec les lois Borloo, on tombe un peu plus sur des sociétés de capitaux, en fait, qui font de cette activité, mais plus sur l'aide à domicile. On n'en trouve pas sur les soins. Mais il y a une concurrence qui devient de plus en plus accrue, effectivement, sur ces petites sociétés commerciales. Voilà.
Concurrence, ça veut dire concurrence à quel niveau ? Parce qu'on ne va pas forcément jouer sur les prix. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect économique des choses, mais c'est une concurrence âpre ? On se dispute le patient ?
Non, c'est pas... le patient nous est adressé par le conseil départemental, en l'occurrence pour l'aide à l'accompagnement. Mais effectivement, on peut avoir un petit peu de concurrence sectorielle, géographique, sur des petites sociétés, effectivement, qui veulent s'implanter. Donc, effectivement, elles ont peut-être des tarifs un peu plus attractifs. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup qui duraient très longtemps, justement, sur ces tarifs. Donc, on ne s'exonère pas de l'aspect économique. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça.
On fait une première pause musicale ?
Oui.
Allez, c'est vous qui avez choisi. Alors, c'est un titre à l'anglais, je vais vous laisser prononcer. Je suis sûr que votre anglais est meilleur que le mien. Qu'est-ce que vous nous avez amené ?
Alors, c'est un titre de U2. Alors, je vais. I still haven't found what I'm looking for. C'était le deuxième. L'album Je suis Atri de U2 qui est sorti il y a quelques années, qui avait fait un tabac. En fait, ils étaient basés sur le premier titre qui, en fait, n'a pas rencontré le succès. C'est le deuxième titre de l'album qui a fait vivre cet album et qui, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un des meilleurs morceaux de U2.
Eh bien, on écoute U2, comme on dit à Toulouse.
I'm
voilà, U2 ou YouTube, je ne sais plus comment il faut le dire, le choix de notre invité Thierry Hette, qui est ce soir venu nous parler d'abord de l'association ASA, l'association qu'il dirige, et puis également de la dépendance qui est son quotidien. Alors cette dépendance, ces associations-là, on reviendra tout à l'heure sur le financement, comment ça marche, etc. Mais est-ce que c'est un substitut à la maison de retraite ? Est-ce que c'est destiné un jour à les remplacer complètement, ces maisons de retraite ? Quelle est la différence ? Alors c'est sûr, on a compris, on est chez soi et on reste chez soi. Quand on connaît un peu le milieu de la maison de retraite, il n'y a pas photo, hein ? Comment vous voyez ça ? Comment vous positionnez ?
Comment on se positionne ? C'est d'abord, effectivement, notre boulot, c'est de conforter les personnes qu'on suit à domicile et les garder le plus longtemps à domicile. C'est une étape, en fait, hein. C'est souvent une étape dans la vie, c'est le domicile. On essaie de les faire perdurer le plus longtemps dans leur domicile parce que c'est là qu'elles se sentent le plus en sécurité, en confort. Mais ça ne nous exonère pas effectivement d'une étape supplémentaire lorsque la dépendance et la perte d'autonomie est tellement importante qu'on ne peut plus se permettre par sécurité pour ces personnes de les garder à domicile. L'étape suivante, c'est souvent l'EHPAD médicalisé ou ce qu'on appelle l'institutionnalisation, c'est l'hôpital. Donc là, c'est
le couloir de la mort, quoi.
Souvent, c'est effectivement, ça peut consacrer effectivement une fin de vie peut-être assez proche.
Qu'est-ce qui vous empêche de les garder à domicile ? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure, on est quand même très équipés. On a des infirmiers, infirmières, on a du personnel soignant, on sait faire des soins. On sait accompagner des gens en fin de vie aussi, sur le palliatif, vous l'avez cité. Mmh. Alors pourquoi on irait en maison de retraite ?
Parce que la dépendance est tellement importante. On arrive à un moment tel que la sécurité de la personne en elle-même n'est plus assurée.
Ça veut dire qu'on ne peut pas être là en permanence.
Voilà, c'est ça. On ne peut pas être là 24 heures sur 24. Et cette sécurité ne peut être assumée par un tiers et encore moins par une famille, par les aidants. Le choix est vite fait. En fait, en général, le médecin traitant, voire le médecin du conseil départemental, juge qu'il est utile de sortir effectivement la personne de son domicile pour la garder en maximum de sécurité.
Donc on se retrouve là, on n'y coupe pas par contre.
Hélas oui. Parfois j'ai vu effectivement des personnes qui revenaient d'EHPAD parce qu'ils avaient je sais pas, il y avait un regain de
C'est-à-dire quand on arrive à l'EHPAD, on a tellement envie d'en sortir.
D'en sortir.
Peut-être
ça aussi, ouais.
Si on n'en sort pas les pieds devant, on a peut-être envie de repartir chez soi.
C'est vrai que notre mission, c'est d'abord et avant tout le domicile. On essaie de les garder au maximum de temps chez elles, parce que c'est effectivement ces personnes s'épanouissent et on s'épanouit mieux au son domicile que dans un endroit un peu hostile, voire inhospitalier. Par faire du jeu de vieux.
Oui, c'est presque un jeu de mots, oui.
Mais toujours est-il, effectivement, que cette étape vers des institutions parfois est inexorable.
Ce qu'on reproche aujourd'hui aux maisons de retraite, il y a un très bel article dans le Canard Enchaîné de la semaine dernière, de mercredi dernier, que j'ai sous les yeux. Ça commence comme ça. Des personnes âgées traitées à la chaîne, des salariés en sous-effectif pétant les plombs, des tarifs hors de prix. Et bien sûr, il termine en disant de quoi se faire des cheveux blancs. Bon, c'est bien, mais est-ce que c'est pas pareil chez vous ? Et qu'est-ce qui différencie la situation entre ces maisons de retraite qui, manifestement, sont en sous-équipement personnel, le temps, on sait qu'ils ont très peu de temps, une douche par semaine. Enfin, on se demande aujourd'hui, au XXIe siècle, alors qu'on sait qu'on va tous mourir de toute façon et qu'on va tous inéluctablement y passer, on se pose quand même la question de savoir pourquoi notre fin de vie n'est pas traitée autrement et pourquoi personne n'y pense.
Alors, j'aurais du mal à faire un parallèle avec l'EHPAD, la maison de retraite, parce que je ne connais pas ce secteur. J'entends effectivement les maux dont elle souffre, les manques de moyens, le manque de personnel surtout.
Alors oui, je ne sais pas si c'est du manque, mais c'est peut-être qu'on n'en paye pas assez. Parce que quand vous regardez le lobby des maisons de retraite et notamment des maisons de retraite privées, d'abord c'est extrêmement cher. Et le fait de payer très cher n'est pas d'ailleurs la garantie, si j'ai bien lu, qu'on va avoir des services à la hauteur. Donc on est, je ne veux pas dire qu'on soit dans l'escroquerie, mais enfin quand même, on se fait un peu gruger. Et surtout, c'est que ces gens, on ne met pas les moyens. Ce n'est pas tellement le problème que ça en manque, c'est qu'on ne les met pas les moyens. Quand on voit la ministre, par exemple, Buzyn, aujourd'hui, qui dit de leur mettre 10 millions d'euros pour créer des postes d'infirmières de nuit dès cette année, on se gratte. 10 millions d'euros, c'est ridicule, c'est une goutte d'eau.
Tout à fait. Ben, je crois que c'est même 50 millions d'euros, ce dont on a parlé, effectivement. Mais 50 millions, c'est une goutte d'eau quand on regarde la population qu'il faut surveiller, qu'il faut accompagner. Quand je parle de notre métier de domicile, effectivement, nous, on est financé par des tutelles qui sont le conseil départemental de Haute-Garonne.
Vous êtes obligé d'avoir des agréments pour travailler ?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
À base de quoi ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Quels sont les critères à remplir ?
Ben, c'est des critères légaux hein, qui sont validés par la directe. La directe, c'est la direction du travail. Hein, donc ça, c'est un impératif obligatoire. Il faut passer effectivement par leur fourche caudine pour pouvoir exercer.
Fourche caudine, c'est le mot, oui.
Voilà, pour pouvoir effectivement accompagner cette population, ben, que ce soit des personnes en perte d'autonomie, des enfants, plus ou moins 3 ans. Voilà, donc c'est un impératif.
Donc il faut des agréments.
Il faut des agréments. Ensuite, effectivement, une fois ces agréments obtenus, on est autorisé par le conseil départemental qui nous permet effectivement d'avoir une activité dans ce secteur. Et ce conseil départemental nous finance effectivement par des subventions. Enfin, c'est plutôt une tarification de la prestation qu'on va délivrer auprès de ces bénéficiaires qui nous sont envoyés justement par le conseil départemental. Voilà.
Vous les voyez comment, ces EHPAD, pour vous ? Ce sont des concurrents ? Tout à l'heure, on nous avait dit bah, ils prennent le relais, nous, quand on ne peut plus, pour la sécurité de nos clients. Ça, je l'entends. Mais dans les EHPAD, quand on y va, il n'y a pas quand même que des gravataires qui attendent de faire le grand saut.
Il y a ce passage de domicile vers l'EHPAD. Mais aussi, dans l'EHPAD, effectivement, il y a des personnes qui sont dans le troisième âge, hein, qui sont encore en...
Alors qu'est-ce que c'est le troisième âge aujourd'hui ? Parce que, il faut qu'on vérifie si on n'y serait pas par hasard.
Alors, on n'y serait pas, peut-être pas loin. Voilà, pas loin
non, vous êtes jeune, mais c'est à partir de quel moment on est dans le troisième âge ?
Je crois que c'est 65 ans, 70 ans.
Messieurs, attention, hein, nous sommes dans des eaux dangereuses. À 65 ans, 70 ans, aujourd'hui, on est valide hein, jusqu'à... Peut-être 80, finalement, l'âge de la validité. Alors, ça dépend des corps, des organismes, etc. Tout ça est très variable. Mais dans la grande majorité, quand même, on est encore valide à cet âge-là. Donc, on doit arriver beaucoup plus tard en maison de retraite.
Normalement, oui. Mais effectivement, aujourd'hui...
Des femmes, d'ailleurs, hein, oui, ça veut dire qu'elles elles tiennent beaucoup plus que les hommes.
C'est vrai. On a...
Chez vous aussi ?
Différence particulière, parce qu'effectivement, chez nous, nos bénéficiaires sont beaucoup plus de femmes. Et aujourd'hui, effectivement, je vous disais tout à l'heure, avant le début d'émission, on a pas mal de centenaires, des centenaires femmes. Mais c'est vrai qu'on a une population beaucoup plus féminine que masculine.
Comment vous l'expliquez ?
Je me l'explique difficilement, parce qu'en fait, la moyenne d'âge de personnes qu'on suit chez nous, c'est un peu plus de 82 ans. Elle a augmenté régulièrement. Enfin, c'est normal. On les accompagne au maximum de leur vie jusqu'à ce qu'ils aillent effectivement dans des institutions. Mais toujours est-il que nous, on a beaucoup plus de femmes et on a pas mal de couples aussi. Donc, on accompagne aussi pas mal de couples. Voilà.
Donc, hommes-femmes, j'imagine. Hommes-femmes. Maintenant, il faut préciser. Nous avons plusieurs façons de voir
des couples. Que les générations arrivent, voilà, se renouvellent dans ce sens-là.
Voilà, vous les aurez plus tard. Quels sont vos rapports avec les familles ?
Les familles sont assez attentives aux prestations, sont très présentes et on leur demande justement d'être présentes. On les accompagne pour les accompagner au mieux qu'on puisse le faire, de façon à ce qu'effectivement notre mission soit la mieux remplie et que la qualité qui sort de cette mission soit bien appréciée en tout cas. Et si elle est bien appréciée, elle sera surtout bien appréciée des apports des aidants, hein, la famille proche. Si par exemple la personne que l'on suit n'est pas en capacité d'apprécier effectivement, elle appréciera la présence de nos salariés, mais elle aura peut-être du mal à apprécier effectivement le travail qu'il aura pu accomplir. Par contre, en parallèle, l'aidant, il le verra tout de suite. Hein, donc,
et vous les voyez souvent ? Parce que quand on va en maison de retraite, ce qu'on entend le plus souvent, bon, la maison de retraite, on colle les vieux en maison de retraite et puis on ne s'en occupe plus, on y va une fois tous les mois ou tous les deux mois, ce qui est absolument dramatique. Est-ce que chez vous, vous avez quand même le sentiment que les familles sont un peu plus présentes ?
Pas forcément, parce qu'on voit que sociétalement, ça, les liens se distendent. On voit que la cellule familiale, ne serait-ce que par la vie des familles, hein, la vie économique, on est amené à se déplacer dans toute la France. Bah, parfois, on oublie ses grands-parents, ses parents sur place. Et parfois, effectivement, nous sommes le seul lien social que peut avoir cette personne qu'on suit dans la semaine.
Vous dites tout à l'heure, on a à peu près 1200, 1300 patients. Ouais. Vous pouvez chiffrer le nombre de patients isolés là, qui,
J'aurais du mal à vous le dire. Je ne sais pas.
Mais pour vous, c'est une constante. Les familles se déchargent sur vous.
C'est une constante qui tend à se durcir. C'est une tendance avérée. Donc aujourd'hui, c'est sociétal. Enfin, on a du mal à s'opposer effectivement à ce bouleversement, mais effectivement, on a une distorsion de la cellule familiale. Donc, les grands-parents sont plutôt isolés, voire même parfois, c'est souvent la femme qui reste toute seule. Hein, c'est le mari qui part en premier, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Oui. Hein, c'est souvent ça. Et les enfants sont un peu loin.
Et ce que vous voyez, ils sont comment? Ils surveillent ce que vous faites? Ils viennent en appui?
Alors, ils sont plutôt en appui de ce qu'on fait. Je ne me cacherai pas qu'il y en a certains qui sont plutôt en surveillance, effectivement, parce que la confiance a du mal. Enfin, elle se crée, hein, c'est à nous de la...
C'est vrai qu'on met quand même...
On arrive dans le domicile, on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, on arrive dans un milieu qui est propre à la personne. Et
on peut toujours craindre l'abus de faiblesse.
C'est un peu une violation de domicile, quelque part, mais qui s'adoucit avec la confiance qu'il gagne au fil des missions. Alors après, je ne veux pas parler d'abus de faiblesse, parce que ce n'est pas...
Non, c'est un terme de juriste, l'abus de faiblesse. Mais c'est ce que peuvent peut-être craindre les familles en disant, finalement, il est totalement dépendant, il est un peu ramolli. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils ne vont pas lui faire signer des chèques, lui piquer les bijoux, l'argenterie?
De toute façon, lorsque l'état de dépendance intellectuelle est avéré, effectivement, il y a une curatelle qui peut se mettre en place. Donc, à la rigueur, là, à ce moment-là, c'est l'aidant, les enfants qui prennent le relais, et donc notre relation entre guillemets contractuelle ne se fait qu'avec les dents.
Majid
Salah. Oui, une question, c'est comment faites-vous pour sélectionner les personnes que vous allez prendre en charge? Quels sont vos critères de sélection? Quels sont ceux où vous dites non, ça je ne peux pas m'en occuper, je ne suis pas suffisamment armé pour prendre en charge cette personne?
Alors, il n'y a pas de sélection déjà. Nous, on veut prendre tout le monde. Parce que toutes les personnes qui nous sollicitent, nous comme d'autres associations, si elles nous sollicitent, c'est qu'elles ont un besoin. Et un besoin avéré. La seule sélection qui peut apparaître, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel associé effectivement à la mission qu'on va nous demander. Et c'est le seul frein qui peut nous arrêter. Après, sur la difficulté de la mission, on mettra en fait les moyens qu'il faut en face. S'il faut mettre des personnes qualifiées, on les mettra. S'il faut mettre du matériel, on les mettra. S'il faut associer des soins infirmiers, on les mettra. Donc on sollicitera le maximum de personnel qualifié autour. Mais de toute façon, on ne sélectionne pas. Il n'y a pas de sélection à l'entrée, surtout pas.
Alors il y a peut-être une sélection qui s'opère par l'argent. On n'a pas parlé d'argent encore. On finit toujours par parler d'argent, malheureusement. Nous sommes dans une société de chiffres. Qu'est-ce que ça coûte de se faire accompagner par l'ASA? Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses, même les vieilles bourses?
Même les vieilles bourses, oui, normalement, oui, parce que c'est le conseil départemental qui va juger effectivement de l'accompagnement, du degré d'accompagnement financier. Nous, on monte les dossiers, en fait, on aide effectivement les bénéficiaires, futurs bénéficiaires qu'on va suivre à monter les dossiers auprès du conseil départemental, mais c'est le conseil départemental qui va juger effectivement du degré de dépendance, comme on disait tout à l'heure, de l'autonomie, la perte d'autonomie constatée, et en fonction de ça, bien sûr, elle va regarder aussi les ressources financières de la personne, et va statuer effectivement sur ce qu'on appelle un taux de participation qui sera la prise en charge, qui restera pour le bénéficiaire. Alors, on parle d'argent, effectivement, mais aujourd'hui, effectivement, par contre, on peut saluer le conseil départemental Haute-Garonne qui, sous l'impulsion de Georges Méric, j'appuierai vraiment là-dessus.
Il connaît un peu la question, Georges Méric, c'est son métier. Donc, il est sensibilisé.
C'est son métier, mais il a vraiment sensibilisé parce que avec la loi SV, l'accompagnement pour la population pour la vieillesse, il a accompagné quand même près de 3000 bénéficiaires supplémentaires. Depuis 2016. Vraiment, il a mis le paquet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très très peu de bénéficiaires que l'on suit qui ont des taux de participation, enfin des restes à charge importants. Voilà.
Ça dépend de leurs revenus.
Ça peut dépendre de leurs revenus, mais ça dépend aussi de leur capacité, enfin leur autonomie mesurée par le conseil départemental. Donc,
combien ça coûte en fonction du besoin qu'ils ont, de leur degré d'autonomie, du service que vous allez rendre, et puis quelles sont leurs ressources.
Oui, tout à fait, c'est ça.
C'est quand même moins cher qu'une maison de retraite.
C'est quand même moins cher qu'une maison de retraite. C'est moins cher que l'hospitalisation. Voilà. Oui, je sais pas. Je connais pas les prix. Je connais pas ce. Bien sûr, on entend ce que. C'est en moyenne 3 000 euros, je crois, par mois, pour avoir un.
Oui, c'est 3 000 euros sur un service, des fois, qui peut être d'ailleurs départemental ou communal, oui. Hein, une maison. Mais à Paris, vous pouvez monter jusqu'à 7 000 euros. Vous n'aurez pas plus de douche pour autant, d'ailleurs.
Certainement. Et puis après, effectivement, vous avez l'hôpital qui est encore beaucoup plus cher, parce que c'est, là, c'est des infrastructures plus importantes.
Oui,
mais
l'hôpital, c'est pas des moyens. C'est autre chose. Il faut quand même avoir une pathologie qui.
C'est une autre mission. Mais ça peut être des courts séjours. Et les courts séjours, ça coûte très cher. Donc effectivement, le fait de garder le maximum de temps ces gens à domicile, c'est aussi effectivement une façon de gérer entre guillemets une population et des coûts liés au vieillissement de la population.
Alors est-ce que c'est quand même pas plus intéressant, il y a un bruit, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est quand même pas plus intéressant pour la sécurité sociale, pour la collectivité publique d'avoir quelqu'un à domicile plutôt que de l'avoir dans un EHPAD ou à l'hôpital.
Oui, certainement.
Ça devrait se développer.
Tout à fait. Ça s'est vraiment développé, d'où notre progression, les progressions de nos associations, collègues, qui ont basé effectivement leur développement sur ce phénomène. Mais ça devrait être amené à se développer parce que c'est vraiment la vraie solution de l'avenir.
Donc, vous êtes dans un marché en pleine expansion, si je puis dire.
Hélas, oui.
Hein, puisque vous avez des clients, les vieux se reproduisent, j'ai remarqué. Donc, effectivement, Jean-Pierre Roch, vous voulez poser une question ?
Oui, en fait, j'aurais...
Mettez-vous bien en face du micro.
J'aurais deux questions. Comment vous arrivez à gérer la période de vacances ? Est-ce que pour vous, c'est un gros souci ? Ou est-ce que, avec l'expérience, vous arrivez à bien le gérer ?
Je vois que nos auditeurs sont très, très intéressés par vos modes de gestion du personnel. Alors c'est vrai que ça doit être un vrai casse-tête quand même.
Oui, c'est une question de planning. Alors après, ça se gère en amont. Effectivement, quand on a beaucoup de salariés ou peu de salariés, c'est peut-être le même problème. C'est leur absence. Et l'absence pour congé, ça se gère en amont, effectivement. Donc ça se gère par du recrutement temporaire. L'été, c'est souvent la période un peu critique de estivale où il faut recruter un peu plus de jeunes qui vont faire 2-3 mois d'été et qui vont nous aider effectivement à pallier ces manques d'effectifs.
Vous avez une deuxième question, Jean-Pierre.
Oui, une question un petit peu plus personnelle que je vous pose parce que j'ai envie de vous la poser. Tout simplement, vous, en tant qu'homme, le fait d'être responsable de cette structure, est-ce que ça vous interroge sur la précarité de la condition humaine ? Est-ce que vous y réfléchissez des fois philosophiquement ? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent en permanence ou vous arrivez à l'éluder ? Voilà, de pas être.
On rentre dans le dur de Thiriette là. Hein.
C'est le principe de notre association, c'est d'aider un maximum de personnes, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire de sélection. Et pour nous, la précarité, elle existe effectivement, on ne peut pas l'éluder, mais on vit avec et on essaie effectivement de rendre le plus confortable possible la vie de ces personnes, avec plus de bienveillance possible pour que leur dernier jour, souvent, se passe le mieux possible. Mais effectivement, la précarité, on ne peut pas la résoudre, en fait. On ne pourra pas la résoudre, ça c'est un fait, mais par contre, on peut aider effectivement à ce que la vie de ces personnes se passe le mieux possible.
Vous accompagnez des gens jusqu'à la fin ? Ça vous arrive d'avoir des clients qui meurent chez eux ?
Ça nous arrive et là, c'est assez dramatique parce que souvent, effectivement...
C'est dramatique, mais c'est la réussite aussi, non ? Vous avez réussi à les accompagner, à les laisser chez eux jusqu'au bout ?
Oui, tout à fait.
Pour moi, c'est un symbole de réussite.
Oui, après, ça peut être une mort tout à fait douce.
Oui.
Mais quand je dis c'est un peu dramatique, c'est souvent parce que les salariés... C'est le salarié qui découvre souvent le bénéficiaire qu'il suivait. Et là, c'est l'affectif qui remonte, c'est de l'émotion. Donc, on travaille de l'humain, ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Mais l'humain, c'est une matière qui est difficilement palpable. Et donc là, on est dans l'émotion et dans l'affectif. Hein. Donc,
et là, vos salariés, très compliqué. Magid, ça l'a posé la question tout à l'heure, mais quand... Ils sont un peu blindés pour ça, ça doit être dur pour eux.
Ils sont blindés, ils le deviennent. En tout cas, effectivement, on met en place, lorsqu'il faut, des cellules psychologiques. On a du personnel qualifié qui peut les accompagner, justement sur ces moments difficiles.
Magid Salah.
Devant le vieillissement inéluctable de la population et le peu de structures qui existent pour justement anticiper et prendre en charge cette problématique, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des suggestions, pas des solutions, mais des suggestions à faire aux autorités, bien sûr, à l'État, et puis à la population pour soit créer des structures ou repenser la prise en charge, l'accueil de ces personnes, etc.
Je m'adresserai peut-être à la ministre, là, à ce moment-là.
Oui, je vous écoute, bien évidemment.
Il faut des sous, à l'évidence. Hein. C'est économiquement, il y a un souci important. Et puis, quand on regarde, effectivement, les masses de population qui vieillissent, et la perte d'autonomie qui arrive très rapidement, mais elle est parfois peu significative, mais elle est lente, en fait. Et on s'aperçoit, juste pour citer deux exemples, que la perte d'autonomie commence en moyenne à 62,5 ans. Voilà. Donc, mais ça commence très doucement et vous le voyez pas. Et c'est insinuant. Et ça vous amène.
Je sens que vous allez me pourrir la soirée, voilà. Thiriette.
On vit très longtemps, mais par contre, on vit pas bien. On vit de moins en moins bien. C'est vraiment bien. Ça veut dire dans une capacité corporelle acceptable et intellectuelle également. Voilà. Donc, ces dernières dizaines d'années qui sont un peu compliquées, alors que avant, effectivement, on vivait peut-être un peu plus vieux, mais dans des conditions plus acceptables.
Un peu comme le marathon, il paraît que c'est dans les 5 derniers kilomètres que c'est le plus dur.
C'est le 35e qui est bon.
Oui. Allez, l'heure a sonné de notre séquence littéraire, parce que dans Capécab, nous parlons toujours de livres, vous le savez. Et vous avez fait le choix finalement de deux livres, alors que j'ai autant aimé l'un que l'autre, donc je vous laisse
vous
en parler.
Mmh.
Oui, La conjuration des imbéciles. Déjà, et puis Le Parfum de Patrice Huskin, qui a été un très très grand livre, qui est toujours un grand livre.
Ces deux bouquins, autant Le Parfum que La Conjuration des Imbéciles, quand on les lit, il y a une impression qui sort. Alors autant pour Le Parfum, on sent quelque chose. C'est assez étonnant.
C'est un peu normal de sentir aussi.
Mais
hein.
C'est très étonnant. Plus on le lit, effectivement, plus on sent des odeurs, plus on sent... On a l'impression que les lettres disparaissent, s'envolent du bouquin et qu'elles créent une espèce d'atmosphère. Donc ça, c'était assez sympathique. Et ça m'avait vraiment marqué. Alors, il a marqué beaucoup de gens, mais effectivement, j'avais l'impression de sentir quelque chose. Et La Conjuration des Imbéciles, en fait, j'ai beaucoup aimé, c'est un livre très humoristique, très drôle, et en plus, qui a été écrit par un garçon, en fait, qui n'a jamais cru à ce bouquin, et en fait, qui n'a pas été édité du temps de son vivant. En fait, il s'est suicidé, et il a été édité une dizaine d'années après, mais il a un succès phénoménal, ne serait-ce que par l'écriture, par initiative, la vie de ce garçon qui est assez déroutante, mais qui était très réaliste, très proche de la vie. Donc, voilà.
Ah, est-ce que, question qui nous ramène à votre métier, est-ce qu'il y a des gens qui lisent chez vous, qui vont faire la lecture? Il y avait un film qui s'appelait La Lectrice avec Isabelle, ça y est, son nom ne me revient pas, je suis meilleur... Sur les, voilà, c'est là l'Alzheimer, hein, vous voyez que je commence à baisser d'entrée. Est-ce que vous avez des lecteurs ou des lectrices qui vont faire
On a dans notre activité, on a développé depuis 2015 une activité qui s'appelle Alterépi. Alterépi, en fait, ce sont des demi-journées où on accueille entre 10 et 12 personnes qui sont, dans leur pathologie, c'est des maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, hein, plus principalement. Donc ces personnes, enfin, on crée des groupes homogènes, où on les fait travailler, enfin, c'est plutôt de l'occupationnel plutôt que du thérapeutique. Et on les fait travailler, bah, la mémoire, on leur fait travailler la mémoire, on leur relit des histoires. On a 6 sites qui sont ouverts aujourd'hui sur cette thématique. Et pour vous citer justement une anecdote, notre président, c'est un bénévole, il anime une fois par mois un des sites où il raconte des histoires que sa grand-mère, sa mère lui racontaient. Donc il essaie de raccrocher ces personnes à leur passé. Et en essayant de activer leurs neurones pour que la vie reste toujours dans leur tête.
Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre que vous avez peut-être lu, Mario Vargas Llosa, vous connaissez, prix Nobel de littérature quand même, excusez-moi du peu, aux 5 crus, Lima, ça s'appelle. Et c'est au carrefour de ces 5 crus, ce qui donne son nom à l'un des quartiers les plus fréquentés de Lima, et ça va être une comédie extrêmement brillante de mœurs que va dérouler Vargas Llosa, qui va également, alors gigantesque scandale politique, médiatique, sexuel, etc. Il y a des maîtres chanteurs, des photos compromettantes, crimes crapuleux, enfin bon, il y a tout ce qu'il peut y avoir, mais ça va un peu nous replonger dans ce Pérou vérolé des années Fujimori, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est pas si vieux, hein, et qui sont vus, qui sont vus à travers la lorgnette de la libido. Donc il y a un érotisme assez lumineux, il y a des sauteries un peu scabreuses, des récits d'alcôve, mais on a en creux un portrait, d'abord c'est très luxuriant, c'est foisonnant, et puis on a un portrait assez cruel d'un régime qui a été quand même inepte et qui a mis certainement un peu à genoux ce pays. Voilà, donc je vous le conseille, aux 5 crus, Lima, c'est chez Gallimard bien sûr, hein, dans la collection du monde entier, donc on ne peut que vous le recommander. Comment vous en êtes venu à ce métier ? Parce que j'ai un peu vu votre bio avant d'arriver dans cette association.
J'étais pas du tout dans ce.
Voilà, c'était pas du tout.
En fait, c'est notre président, le président Joël Echevarria, pour ne pas le reciter, qui est un ami, qui m'a demandé un jour, effectivement, il y avait une petite problématique de gestion de l'association, donc il m'a demandé d'intervenir de façon très temporaire. Et puis, bah, je me suis piqué au jeu, effectivement, et il m'a demandé de rester pour l'accompagner dans la vie de l'association. Et j'ai découvert, effectivement, un monde que je ne connaissais pas. Alors, moi, effectivement, j'ai plus de grands-parents, plus de parents, mais bon, ça me fait que me rapprocher, effectivement, de cette perte. Voilà.
Mais vous avez une formation de financier, quand même.
Plutôt.
Donc là, est-ce que vous êtes à votre aise dans ce... Dans ce créneau, dans ce secteur.
Oui, parce que c'est malgré tout, je reste un homme, donc un humain, donc quelque part.
Vous n'avez pas une approche trop financière.
Je suis obligé effectivement d'avoir à minima effectivement cet œil un peu rigoureux, mais toujours est-il que je reste humain et la bienveillance qui m'anime fait que voilà, naturellement, je peux que me tourner vers les autres.
Et l'association est à l'équilibre aujourd'hui?
Alors oui, était l'équilibre. Ouais.
Vous faites des excédents, je ne veux pas dire des
bénéfices. Non, mais c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué d'équilibrer des associations, effectivement, parce que les dotations ou les subventions qu'on reçoit sont parfois un petit peu plus compliquées et que nos missions évoluent et se durcissent. Donc parfois, on est plus consommateur que...
Oui, vous avez plus de besoins et peut-être moins de ressources. Est-ce que vous sentez que les collectivités locales... alors, on a dit ici que le département et Georges Méric, son président, étaient très actifs, très agissants. Mais est-ce que vous sentez quand même qu'il y a un raidissement de la politique de l'État vis-à-vis de ces subventions, vis-à-vis de votre accompagnement?
Plus du côté peut-être de l'autre financeur qui est l'ARS, qui est plus contraint effectivement, parce que l'ARS c'est l'émanation de la CPM, la caisse primaire d'assurance maladie, voilà, la Sécu en fait. Et donc là, on sent peut-être un plus un raidissement sur les budgets. Mais bon, aujourd'hui, cette mission, elle est impérative, elle est nécessaire. Donc ils en perçoivent bien la nécessité. Donc, il faut défendre sans arrêt nos budgets.
Ça veut dire, est-ce que depuis qu'on a changé de président de la République, sans faire de comparaison qui n'aurait peut-être pas forcément du sens, est-ce que depuis qu'on a changé de président de la République, vous sentez une...
Paf. Pas forcément, non. C'était, je pense que l'ARS a une directive, une direction générale qui applique.
Ils sont très financiers, l'ARS, quand même. C'est du fric pour eux. Hein. Oui, enfin, l'humain, c'est pas trop leur truc, quand même.
Bah, malgré tout, si, quand même. Parce que,
oui, vous croyez.
Si, bah, quand même, un petit peu. Des médecins chez eux, donc ils connaissent un petit peu le médecin. Ça leur fait partie de leur métier. Mais effectivement, ils ont une dimension financière importante. Ouais.
Alors, une question beaucoup plus personnelle que je vais vous poser, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. J'ai vu que vous pratiquez le padel.
Le padel, oui.
Alors, quel plaisir on a à ramer sous un soleil?
Alors, c'est pas une paddle.
Ah, c'est quoi, c'est, alors?
Alors, il y a deux... le padel, c'est le mot espagnol. C'est du jeu, c'est un tennis, mais...
ça n'a rien à voir avec le...
Mais effectivement, j'ai fait aussi du paddle.
Oui.
C'est une grande planche de surf qui fait à peu près 3,50 m, 4
mètres. Oui, sur laquelle on rame. Je ne vois pas trop l'intérêt de ce truc, mais je n'ai jamais pratiqué.
C'est très physique, mais voilà, c'est une histoire d'équilibre.
J'en ai même vu sur des canots à Venise qui faisaient du paddle. Donc, ça m'avait, à l'époque, un peu surpris. Eh bien, écoutez, Thierry, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Donc déjà, un grand merci d'être venu. Merci de nous avoir parlé de l'ASA, de nous avoir peut-être un peu rassurés en se disant, finalement, on va pouvoir rester un peu plus longtemps chez nous. On ne va pas aller dans ce mouroir, voir ce que je qualifiais tout à l'heure de couloir de la mort. Si vous en êtes d'accord, on pourrait dédier cette émission à quelqu'un qui nous a quittés, mais avec qui j'ai bien aimé travailler,
bien sûr.
Que j'aurais souhaité inviter ici, mais malheureusement, elle a été rappelée, comme diraient certains, en tout cas, elle est passée de l'autre côté. C'était Jenny Jaudra, donc on a une pensée pour elle et pour son management à l'ASA, puisque c'était elle qui vous avait... précédé,
ouais.
Et vous lui avez succédé en reprenant heureusement cette association, donc longue vie si je puis dire à l'ASA. Merci Thierry, c'était Cap
Merci
Cap,
beaucoup.
Une émission de Jacques Lavergne avec aux manettes Jean-Louis Arzac, et nous nous retrouverons bien sûr la semaine prochaine, je ne sais pas encore avec qui, ce sera une surprise. En tout cas, vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Esprit Occitanie ainsi que sur le site de la station. Demain, rediffusion de cette émission à 11h, que vous pourrez aussi retrouver dans la semaine et même ce week-end. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.